Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série « Nos corps étrangers » d'Abra le corps, qui revient sur différents questionnements qu'a pu exacerber le confinement dans notre rapport à notre corps, et donc plus généralement à nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais tenter de parler de notre appréhension esthétique du corps, dans ses différentes dimensions politiques, sociales et symboliques. On a vu et entendu pas mal de témoignages sur les réseaux, célébrant le confinement comme une libération. Moins d'injonctions à l'épilation, au maquillage, fête du jogging et des vêtements amples et confortables, même pour bosser, renoncement au soutif, autant d'aspects plutôt positifs, mais qui ne suffisent pas à inverser totalement un rapport au corps souvent conflictuel, notamment pour celles pour qui leur apparence physique pouvait déjà être l'objet de souffrances. Pour ces personnes, se retrouver ainsi coincé seul avec soi-même, entre les miroirs, a pu exacerber pas mal d'angoisse. De manière générale, au gré des témoignages que j'ai pu glaner à droite et à gauche, le confinement semble avoir suscité chez beaucoup une certaine réflexion sur la manière dont IL aimait se présenter au monde, ouvrant la voie à certaines introspections sur des pratiques corporelles qui, elles, développaient par conformité voire contrainte sociale, et d'autres qui étaient vraiment importantes pour IL, dans leur construction, leur affirmation de leur identité. Or, ce cheminement n'est pas évident. Comme on a commencé à le voir dans l'épisode précédent, arriver à se départir du poids des injonctions sociales pour réétudier ses désirs propres et construire un rapport plus sain et personnel à son corps est loin d'être évident. Les injonctions sociales visant tout particulièrement l'apparence sont loin d'être spécifiques au XXe siècle. Souvenez-vous néanmoins du phénomène d'individuation théorisé par l'historien Norbert Elias que j'évoquais dans l'un des podcasts précédents. À l'instar de la plupart des normes sociales, la première particularité des codes esthétiques de cette période est qu'ils cessent peu à peu de surplomber l'individu pour lui devenir inhérent. L'individu les incorpore. Le basculement vers une société de consommation et le concept de pouvoir d'achat associé à un fort mouvement d'urbanisation donnent forme à un public bien plus large de réceptrices des nouvelles normes de beauté. Il est vrai que jusque-là, les normes vestimentaires telles que le corset par exemple s'adressaient essentiellement aux franges les plus riches de la population, n'étant pas vraiment compatibles avec l'activité laborale des classes les plus pauvres. Or, cette nouvelle population urbaine voit aussi son niveau de vie moyen augmenter au gré des nouveaux emplois ouverts par les marchés des services, notamment dans la seconde partie du XXe siècle. C'est l'émergence de la fameuse classe moyenne, chez qui les discours matérialistes et de consommation vont trouver un écho très favorable. Jouant sur l'aspiration de distinction de cette nouvelle classe, les premières compagnies publicitaires recourent aux valeurs de l'effort et du mérite, chères aux populations européennes protestantes immigrées aux États-Unis, à la bourgeoisie européenne de manière générale, ainsi qu'à la plupart des membres des classes travailleuses de manière encore plus globale. La consommation devient alors la récompense autant que le moyen d'expression d'un nouveau modèle de vie dont le fameux American Way of Life est le principal archétype. D'abord moralement légitimé, la machine capitaliste n'a plus ensuite qu'à entretenir ou recycler ses nouveaux désirs à l'infini pour être sûr de pouvoir toujours bien fonctionner. Dans ce processus d'individuation dont parle Norbert Elias, les individus consentent, adhèrent aux nouvelles normes, notamment esthétiques. La contrainte à celle-ci n'a plus besoin d'être édictée par des instances morales, religieuses, politiques ou autres surplombantes, ni même d'être clairement codifiée de manière écrite. Elle circule de façon implicite, et la réprobation des regards suffit généralement à sanctionner les comportements et les apparences qui s'en écartent. Le contrôle social des nouveaux codes est d'autant plus fort que ces normes sont partagées par un nombre croissant d'individus, puisque nous entrons dans ce que nous avons déjà abordé dans l'un des podcasts précédents, à savoir une certaine culture de masse par l'homogénéisation des biens, des services et donc également des codes et des pratiques.
Il y a toute une réflexion sous-jacente dans cette pièce de théâtre sur la glace. Peut-être que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de glace.
Philippe Cabestan, professeur en classe préparatoire, invité dans l'émission des Chemins de la philosophie le 13 mai 2020, parlant de la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre.
On peut donner un sens à cette absence dans la mesure où se regarder dans la glace, c'est tenter de se voir comme l'autre me voit. Ici, je dirais que, contrairement à ce qu'on pense, quand je me regarde dans la glace, c'est pas pour m'admirer ou me sourire, ou etc. C'est pas vrai. J'essaye de voir, de saisir ce que l'autre saisit de moi. Et donc, l'absence de glace rend la situation encore plus infernale. Parce que je m'échappe ce que je suis pour autrui, ce que mon visage présente au regard d'autrui, ce que mon corps, la manière dont mon corps apparaît à autrui, je ne peux absolument pas la contrôler. Et alors, il y a un moment qui est assez intéressant, c'est Estelle qui demande à Inès de la guider. Elle essaye de voir dans ses yeux si elle a bien mis son rouge à lèvres. C'est un ersatz, mais on comprend bien toute la difficulté et toute l'importance de la glace. Pouvoir se regarder, c'est pas du narcissisme, parce que c'est une relation, en fait, qui est en apparence narcissique, mais qui convoque l'autre, au sens où j'essaye de voir dans la glace ce que je suis pour l'autre. Et maintenant, on peut comprendre l'enfer, c'est les autres. Toute la difficulté pour ces êtres, pour Estelle, Inès et Garcin, c'est de se retrouver sous le regard des uns des autres.
Si, comme nous l'avons vu dans l'épisode 1 de cette série, le XXe siècle a pu être surnommé le siècle du corps, de la célébration, voire de la libération du corps, il ne s'agit pas de celle de n'importe quel corps. Puisqu'il va de pair avec le développement d'une société de services. L'idéal du corps célébré, c'est bien celui de la bourgeoisie, principale protagoniste de cette nouvelle société. Christine Détresse commente l'immixtion des membres de la classe moyenne dans son ouvrage « La construction sociale du corps ». Cette classe moyenne, alors en plein essor dans l'ensemble des corps professoraux et médicaux, crée une nouvelle gamme de professions liées au corps, que ce soit dans l'alimentation, la beauté, la santé, la diététique ou la sexualité. Cette nouvelle classe est donc autant la principale actrice que consommatrice de ce nouveau capitalisme. Logique donc que le corps qu'elle érige en modèle de beauté soit plutôt à son image, ou du moins à l'image qu'elle se fait d'elle-même. N'ayant plus besoin de la corpulence nécessaire aux travaux les plus physiques, les silhouettes qu'elle met en avant sont plutôt fines. Les nouveaux marchés de l'hygiène et du cosmétique lancent également une guerre à toutes les formes d'aspérité, poils, boutons en tout genre. Ce corps, bien sûr, c'est également surtout un corps blanc, et dans la lignée des traditions artistiques bâties en grande partie sur l'objectivation du corps féminin, la publicité recourt massivement à la diffusion d'une certaine nudité féminine. Dans son livre « La fin de l'amour sur un désarroi contemporain », la sociologue franco-israélienne Eva Illouz revient sur cette marchandisation du corps de la femme. Ce phénomène s'appuie sur la récupération par les forces économiques des revendications de liberté sexuelle, donnant lieu à ce qu'elle nomme un capitalisme scopique. Le corps de la femme, devenu unité monnayable, est constamment placé sous le scope, soit le paramètre, en anglais, la perspective masculine hétéronormée. Et cela dépasse de loin les simples produits de beauté pour femmes.
Le capitalisme scopique, c'est le fait que à partir du début du XXe siècle, des industries qui ont assisté, en fait, qui ont aidé à la formation de la société de consommation, se sont mises en place. Ces industries, ce sont des industries qui ont géré le moi, qui ont géré la personne en termes d'image. C'est le cinéma, c'est la publicité, ce sera plus tard la télévision, c'est l'industrie de la mode, c'est l'industrie de la cosmétique, qui sont toutes en fait solidaires les unes des autres, qui naissent ou qui prennent de l'essor, un énorme essor en même temps, et qui transforment le corps en unité visuelle qui doit être séduisante et attirante pour tout le monde, donc qui va créer des marchés de masse et qui va notamment rendre le corps de la femme une unité monnayable, une unité qu'on va pouvoir exploiter. Donc il s'agit véritablement pour moi d'une transformation du capitalisme, puisque si le capitalisme, disons à la Marx, exploitait le corps de l'homme, le corps musclé, le corps fort de l'homme dans des mines ou plus tard dans une usine, il s'agit maintenant d'exploiter un corps beau, mince, et d'en faire de la plus-value.
Le corps féminin est l'outil marketing par excellence de toutes les nouvelles industries florissantes. Tous les biens et services proposés se vendent autour du désir de ce corps qui doit devenir LA référence pour toute femme cisgenre hétéro qui se respecte et le principal objet que doit chercher à s'approprier tout homme cisgenre hétéro qui s'honore. Même le secteur de l'automobile s'y donne à cœur joie.
Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme.
Dans cette nouvelle organisation capitaliste, le corps, en particulier le corps dit féminin, se dévoile donc peu à peu, mais ne se libère pas de l'injonction de beauté, le présentant comme un objet sexuel. Bien au contraire, cette idée se massifie. En réalité, les nouvelles normes esthétiques semble d'autant plus difficile à satisfaire qu'elle ne repose plus simplement sur l'ajout d'accessoires extérieurs, mais sur un travail direct du corps. S'appuyant sur les travaux de l'écrivaine Florence Monreno et ceux de l'historienne Michel Perrault, la sociologue Christine Détrez remarque dans son ouvrage « La construction sociale du corps », je cite, « Le corset disparaît, au profit des régimes et de la musculation. La main se dégante, mais les ongles doivent être soignés et vernis. Les cheveux se libèrent, mais se colorent. Les jambes émergent des robes, mais s'épilent. » Fin de citation. L'effort méritant propre à la classe moyenne se tourne en effet progressivement vers le modelage du corps en tant que tel. Se conformer au modèle de beauté devient alors inséparable d'une forme de responsabilisation, voire de culpabilisation, souligne Yves Travaillot, auteur d'un ouvrage de sociologie des pratiques d'entretien du corps. La fin du corset n'en a pas terminé avec le fameux adage « il faut souffrir pour être belle ». Mais comment en arrive-t-on à intégrer volontairement ces nouvelles normes, à nous plier aux dictats de la minceur et des jambes épilées? Puisqu'elles sont plutôt induites qu'imposées verticalement, le propre de ces nouvelles normes et des souffrances qui peuvent y être liées et qu'on ne les perçoit pas nécessairement comme telles. En effet, comme le montre Christine Détrez, l'émergence de ces nouvelles injonctions esthétiques est d'autant plus vicieuse qu'elle se fait tout en dialogue avec une nouvelle norme, celle du bien-être, promis par l'essor de la société de service.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain, d'étaler toutes les photos de moi, de les commenter de haut en bas. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi.
Alors même que les inégalités se creusent et que la proportion de personnes en situation de survie augmente considérablement dans le reste du monde, l'Occident se couvre d'un vernis protecteur. La mort, la maladie, tout comme la vieillesse et la douleur, en général, sont de moins en moins tolérées, et lorsque les progrès de la médecine ne parviennent pas à les faire totalement disparaître, les discours et les institutions sociales se chargent de les invisibiliser. Dans ce contexte, et après avoir rejoint la liste des droits de l'homme fondamentaux lors de la création de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, le concept même de santé évolue. L'absence de maladie ne suffit pas. Les promesses de confort du nouveau capitalisme exigent le bien-être. Dès les années 1960, insufflé depuis les instances internationales au sein des nouveaux emplois du secteur tertiaire par une réforme du droit du travail et l'émergence d'une médecine du travail, nos corps sont appelés à intégrer au plus vite cette nouvelle norme de santé qu'il faudrait presque identifier du premier coup d'œil. À l'heure du déo et de la salle de bain, il n'est donc plus d'excuses pour ne pas prendre soin de son corps. Il faut le protéger, le purifier, le revitaliser. Poids, peau, musculature seront les témoins de nos efforts pour l'atteinte du bien-être, l'idéal de la pleine santé.
Est-ce que pour vous, il y a un rapport entre la culture physique, le corps et la beauté ?
Oh, c'est surtout pour la santé. La santé et pour l'esthétique. J'ai quand même 73 ans et je vais quand même me déshabiller sur la plage.
Qu'est-ce que vous appelez l'esthétique du corps ?
L'esthétique du corps, de ne pas avoir un ventre comme ça, de ne pas avoir un double menton, et voilà.
Et simplement, on est bien dans sa peau, et je trouve que quand on est bien dans sa peau, on est beau. Enfin, pour moi, l'esthétique, la beauté, c'est ça.
Santé, beauté, force, voilà. C'est intimement lié. Il y a un idéal esthétique, c'est l'idéal grec. Vous voyez toujours la référence, c'est la statue grecque. C'est les écarts de vie, les écarts alimentaires, les écarts de régime, les écarts de la sédentarité, un ensemble de choses qui modifient le bon capital que vous aviez au début. Hein.
Plus grande fluidité, être mieux dans son corps.
Georges Simon, vous êtes masseur chez Alexandre. J'aimerais savoir ce que vous faites exactement en dehors du massage.
Madame, en dehors du massage, je fais une rééducation respiratoire et musculaire qui permet à toute personne de reprendre un maximum d'efficacité dans leur vie professionnelle ou sportive.
Je nettoie, je fais nettoyage de peau, je retire les comédons, je leur fais des masques de relax ou de traitement. S'ils ont les poches ou les yeux, je fais ce qu'il faut pour. S'ils ont de la coupe rose, eh bien je fais un massage pour la coupe rose. S'ils ont de l'acné, je les soigne pour l'acné. Tout dépend de la peau.
Ce changement dans nos représentations de santé s'inscrit pleinement dans l'ensemble des changements politiques et économiques qui s'agencent à l'échelle internationale et nous poussent à nous penser en tant qu'individus et à nous auto-réguler. Christine Détresse parle pour sa part d'un « devoir de plaisir », se retrouvant notamment pour les femmes dans l'ensemble des discours, les incitant à écouter et prendre soin de leur corps. La santé, de plus en plus associée au bien-être, et renvoyé à des produits de consommation. Le capitalisme d'aujourd'hui ne s'occupe d'ailleurs plus seulement de l'apparence, de l'extériorité de nos corps, mais également de l'intérieur, de l'équilibre de notre flore intestinale par picorement de régime healthy et des grandes goulées de smoothies bio. Mais profit des industries ou pas, quel mal en soi a ainsi associé santé et bien-être et a poussé les individus à les prendre en charge ? À l'heure des crèmes adoucissantes et des masques nourrissants, quelle est donc cette souffrance qui impliquerait nos nouvelles normes de beauté ? Tout d'abord, sans qu'il s'agisse de nier la relaxation que peut nous procurer de tels produits, rappelons que leur fabrication repose sur un système d'extraction, d'exploitation, de synthétisation et de flux marchands qui détruisent non seulement l'écosystème, mais aussi les tissus sociaux et de nombreuses vies humaines parmi les populations les plus pauvres. Mais j'aurai l'occasion de traiter ces sujets dans d'autres émissions. Pour ce qui est de notre échelle de petites consommatrices, surtout consommateurs et consommatrices occidentaux et occidentales, soulignons que l'ensemble des pratiques présentées comme du soin et de l'entretien de soi ne sont pas nécessairement indolores. On peut penser à l'épilation par exemple. Néanmoins, qu'est-ce que quelques tiraillements lorsque l'assignation au genre féminin nous explique dès l'enfance que devenir une femme est de toute façon un chemin douloureux. Notre corps, appelé à surmonter les menstruations, le déchirement de l'hymen, les cystites, les mycoses, les grossesses, les endométrioses, les épisiotomies, la ménopause et on en passe, aura tôt fait de s'adapter au picotement de la cire. En fait, aussi insidieuses que les normes qui les causent, les souffrances engendrées ne sont pas nécessairement physiques. Il s'agit plutôt de cette petite voix qui nous martèle que nous ne serons jamais à la hauteur, que ce nez est trop gros, ses fesses trop grasses, cette poitrine trop maigre. Lorsque ces complexes deviennent un peu trop obsessionnels, on parle de dysmorphie ou de dysmorphophobie. Invitée de Jennifer Padjami dans son podcast Miroir Miroir sur Binge Audio, la psychologue clinicienne et psychothérapeute Sophie Cheval, autrice de « Belle autrement, en finir avec la tyrannie de l'apparence », définissait la dysmorphie comme une préoccupation rigide et envahissante en lien avec l'apparence physique. Les exemples les plus fréquents renvoient au trait du visage ou à l'épaisseur du corps, notamment chez les anorexiques. Souvent déconsidérées, celles-ci touchent pourtant une frange non négligeable de la population. Comme on peut s'y attendre, les femmes sont les plus touchées. Néanmoins, du fait de la tertiarisation de l'économie, les hommes sont selon elles de moins en moins exempts de cette tyrannie de représentation corporelle idéale, comme en témoignent les cas de plus en plus fréquents de bigorexia, soit la poursuite obsessionnelle d'un corps musclé, allant par exemple jusqu'à la suractivité sportive ou la prise de stéroïdes.
On a l'impression que les hommes sont de plus en plus soumis à des diktats esthétiques. Eux aussi sont soumis aujourd'hui aux impératifs de la minceur, d'être en forme, etc. Est-ce que ça n'est pas finalement une manière de rétablir l'équilibre entre les impératifs auxquels sont soumis les femmes et les hommes?
Alors c'est vrai que la société de consommation a tendance à opérer les mêmes changements sur les hommes et sur les femmes. Toujours avec un délai, toujours avec du retard, parce que les hommes ont commencé à être l'objet de cosmétiques et de la mode, par exemple que dans les années 50, en tout cas aux États-Unis, alors que les femmes l'étaient depuis plus longtemps.
Eva Illouz, dans l'émission L'invité des matins par Guillaume Herner, le 5 février 2020.
Ceci dit, étant donné que les hommes ont continue à avoir une domination économique, dans le domaine économique, ça n'opère pas de la même façon. Par exemple, un homme âgé peut être encore séduisant, a encore un pouvoir érotique et sexuel, alors que l'âge est problématique dans le pouvoir érotique et sexuel d'une femme.
En ce qui me concerne, souffrant d'anorexie mentale, mais celle-ci n'ayant pas provoqué chez moi de phénomène de dysmorphie corporelle, j'ai mené un entretien auprès d'une autre jeune femme, elle aussi anorexique, qui raconte l'expérience qu'elle fait de ce phénomène. En voici la retranscription. Dans le cadre de l'anorexie, tu as accepté de témoigner de ton expérience de la dysmorphie, que tu préfères appeler toi dysmorphophobie, c'est ça? Tu peux nous expliquer pourquoi? Je trouve le mot dysmorphophobie tout simplement plus parlant par rapport à mon expérience. Tout simplement par l'explicitation du mot phobie dedans. En effet, dans mon expérience, ce trouble rassemble deux choses assez distinctes, mais qui pourtant coexistent. D'une part, la vision erronée de son propre corps, et d'autre part, l'angoisse que cette vision suscite, qui est réellement de l'ordre de la phobie et qui est obsessionnelle. C'est pour ça que le fait de faire apparaître explicitement les deux aspects du trouble rend à mon sens la compréhension de celui-ci plus facile. D'ailleurs, je dirais que le premier aspect que j'ai mentionné est assez stable. C'est-à-dire que je pense que ça fait bien longtemps que peu importe l'état d'esprit dans lequel je me trouve, la vision que j'ai de mon propre corps ne représente pas la réalité. Mais en revanche, le côté angoissant et obsessionnel s'exprime pour moi à des degrés plus variables, selon les phases ou l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est dans les moments où ce deuxième aspect est plus prégnant que les crises d'anorexie surviennent et que les deux s'entretiennent mutuellement, finalement. Dans les moments de, entre guillemets, répit, en effet, j'ai toujours l'impression d'être plus grosse que je ne le suis réellement, probablement. Et cela me crée des complexes et inconforts, mais j'arrive à vivre avec et à en faire plus ou moins abstraction, ou du moins que cela n'impacte pas à outrance ma vie sociale et mes comportements alimentaires. Ça reste, je n'ai jamais un rapport très sain à mon corps à cause de ça. Ça reste angoissant, mais dans une moindre mesure à certains moments. La dysmorphophobie t'accompagne depuis tes premières crises d'anorexie. Est-ce qu'elle est pour toi inhérente à ta maladie? Quand et comment est-ce que tu as pris conscience qu'il s'agissait de quelque chose de pathologique, d'une vision déformée de la réalité? Alors je ne sais pas vraiment car c'est un peu flou. Ma première crise d'anorexie est survenue quand j'étais assez jeune. Donc ça fait un petit moment maintenant et je ne savais pas vraiment l'analyser à l'époque car je ne savais pas ce qui m'arrivait finalement. Je peux dire ce que j'en pense des vagues souvenirs que j'en ai et de l'analyse que j'en fais bien des années après. Mais je ne sais pas si ça reflète ce qui s'est réellement passé dans ma tête. J'avais 14 ans à l'époque, et je pense que comme toute adolescente en pleine puberté, la vision de son corps qui change est assez angoissante et surprenante. Je pense que j'ai effectivement au moment de la puberté pris quelques kilos, de façon objective, mais que ça a pris bien plus de place que ça devait en prendre. Je pense que j'ai dû voir de manière exagérée ma prise de poids. Et je pense que cette obsession et cette exagération a été très favorisée par tout un contexte et des commentaires extérieurs sur mon propre corps. Contexte familial très instable et très peu rassurant, réflexion à outrance et constante de ma famille sur mon corps et ma manière de m'alimenter, sur ce que c'était d'être une jeune fille élégante. Un dénigrement des corps gros constant depuis mon enfance et bizutage à l'école, à mon entrée au collège, où j'ai subi énormément de moqueries et de harcèlement scolaire. Je pense qu'en effet, c'est tout ça qui a engendré ma volonté de maigrir et ce que j'ai considéré comme un petit régime au départ a vite pris des proportions énormes et dégénérées. Je pense que oui, c'est un des points de départ de mon anorexie, mais que finalement, c'est une maladie complexe où énormément d'éléments rentrent en compte et pas uniquement la dysmorphophobie. Mais oui, en effet, je crois que c'est complètement inhérent. La dysmorphophobie n'entraîne pas nécessairement l'anorexie, mais c'est le cas dans les phases dites stables. Ou bien si tu as d'autres solides piliers, peut-être qui font que tu ne vas pas aussi loin que des périodes intenses et drastiques de restrictions alimentaires. En revanche, dans mon cas, l'anorexie ne va pas sans dysmorphophobie. Et c'est bien elle, entre autres choses car ça reste des fonctionnements très complexes, qui entretient de tels comportements et qui te pousse à te priver et te pousse à être fier de ta perte de poids. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas le seul mécanisme qui pousse à ça. Et elle est inhérente, mais à mon sens pas suffisante. Pour ce qui est de me rendre compte, je ne sais pas trop. Je dirais à force de crises et rechutes où j'ai été prise en charge médicalement et qu'on me l'a expliqué et démontré. Mais même si de façon objective je le sais et que je connais très bien le fonctionnement de la maladie, ça ne m'empêche pas de rechuter et de toujours refuser que ce sont entre guillemets des angoisses irrationnelles. Donc finalement, je le sais de manière froide et théorique, mais dans la réalité, je ne suis pas sûre de pouvoir dire que je m'en rends compte. C'est sûr que dans les périodes plus stables, où j'ai à peu près toute ma tête, étant quelqu'un d'assez rationnel, j'arrive bien à comprendre qu'avec un IMC extrêmement bas et en état de dénutrition intense, si je me trouve toujours en surpoids, c'est qu'il y a un souci. Que quand j'ai l'impression d'avoir pris énormément de poids, mais que je rentre toujours dans les mêmes vêtements et que mon poids ne bouge pas sur la balance, je dois bien comprendre que tout se passe dans ma tête. Mais en même temps, c'est très difficile à admettre et très difficile à maîtriser, car ça reste un sentiment prégnant quotidiennement. Quelque chose que tu sens dans ton corps et que tu vois tous les jours et dont tu ne peux vraiment pas te détacher. Comment ce phénomène se traduit-il concrètement pour toi ? Est-ce que tu pourrais décrire ce que tu ressens ? Très concrètement, c'est un phénomène qui est assez envahissant, qui est à la fois pour moi de l'ordre du visuel, mais aussi de la sensation. Il me semble qu'on dit souvent que c'est le fait de se voir de manière différente dans le miroir. Alors, en effet, c'est la première des choses. Je me vois concrètement trop grosse. Je dis trop grosse, car je ne dirais pas que je me vois obèse. C'est de l'ordre du trop. Mais je pense que je serais incapable de définir ma morphologie. En fait, je ne connais pas et je ne vois pas les contours de mon propre corps. Ils sont assez flous. Je sais simplement que c'est en trop. Je me vois épaisse, mais je ne sais pas à quel point. Je vois des bourrelets, des choses qui dépassent, de la chair, mais je ne saurais vraiment définir les limites. Et c'est ça qui est dérangeant. Et je crois que c'est aussi ce qui est rassurant dans l'anorexie, quelque part. Car la vision et le toucher de tes os te donnent un standard, en quelque sorte. Quelque chose sur quoi te baser, pour définir la vision de ton propre corps. Quelque chose de géométrique, de tangible, là où les rondeurs sont du flou. C'est assez bizarre, je sais. Car en même temps, le paradoxe, c'est que si ça a quelque chose de rassurant, comme je te disais, de te voir t'amaigrir en même temps, il y a toujours cette notion de trop. Car finalement, tant que tu existes, il y aura toujours du trop. Au niveau des cuisses, des hanches, du menton, même simplement de la peau. Et du coup, c'est jamais assez, et c'est toujours en trop. C'est ce qui te pousse à maigrir encore plus. Ensuite, comme je te disais, ça se manifeste aussi de l'ordre du ressenti, de la sensation. De la même manière, la sensation de ton propre corps, du moelleux, des vêtements sur ton corps, est très désagréable et obsessionnelle. Ça peut aller du contact de certaines zones de ton corps entre elles, dans certaines positions, à la sensation simplement constante d'être gonflé de tout ton corps. Est-ce que cela concerne l'entièreté de ton corps ou des zones en particulier? Pour moi, ça concerne absolument toutes les parties de mon corps. Menton, joues, bras, poignets, hanches, ventre, jambes dans leur intégralité, chevilles, doigts, absolument tout. D'ailleurs, j'ai gardé énormément de tics au quotidien, que ce soit se regarder dans le miroir, toucher de façon régulière plusieurs parties de mon corps car elles me gênent, ou bien pour essayer de vérifier que je n'ai pas grossi ou que j'ai maigri par exemple. Le sternum pour voir à quel point je peux sentir mon ossature, faire le tour de mon poignet avec mes doigts, pour ne citer que deux exemples. Est-ce que ce sentiment évolue selon les heures de la journée? Selon les jours, est-ce que tu le ressens en dehors des grandes crises d'anorexie? On rappelle que l'anorexie n'est pas que des cycles, que c'est une maladie qui est tout ce qui reste présent en nous, même si elle ne se traduit pas directement par des phases d'amaigrissement volontaire et de troubles du comportement alimentaire. On peut dire qu'elle continue de sommeiller. Dans l'entretien du podcast Miroir Miroir, Sophie Cheval, la psychologue, relie la dysmorphophobie au caractère émotionnel propre à la beauté. Est-ce que donc, dans ton expérience, tu ressens toi aussi un lien entre l'évolution de tes émotions et celle de ta dysmorphophobie? Bien sûr, ça évolue. Et surtout, comme je te disais en début d'entretien, pour moi c'est surtout l'intensité de l'angoisse ou bien l'obsession qui diminue ou s'accentue selon les jours, la semaine, les moments de la journée, selon ce que j'ai mangé. Déjà pour commencer avec un fait très simple. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours gardé un régime alimentaire très 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 strict au quotidien, en m'accordant peu d'écart et en faisant très attention à ce que je mange. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Tout simplement, car même si c'est à la fois cette obsession pour la nourriture et cette rigueur qui est malsaine et dangereuse, c'est aussi mon garde-fou contre les rechutes de manière paradoxale. Mais ce qui fait que quand j'y déroge pour des raisons X ou Y, car je suis invitée quelque part, car c'est un peu la fête, comme en cette fin de confinement par exemple, bien sûr, ça s'accentue. Un peu comme tout le monde, je crois, tu as un peu mangé plus riche que d'habitude, tu te sens moins bien dans ton corps et plus grosse. Sauf que d'une part, pour moi, qui fais très attention au quotidien, déroger à cette rigueur, ça va très vite. Et surtout, ça peut vite dégénérer et devenir très obsessionnel. Et c'est là où je dois faire attention. Car dans ces moments, c'est très propice à une recrudescence de pratiques restrictives à cause de la culpabilité et d'un retour en force de la dysmorphophobie. Et ça peut aller très vite. Donc oui, en effet, les pratiques alimentaires peuvent faire évoluer le regard sur soi. Et c'est tout pareil pour le sport. Le sport, c'est un super garde-fou contre ça. Mais en même temps, encore une fois, le danger pour une personne qui souffre de TCA, c'est de se lancer dans la pratique excessive du sport, qui te fera vite rechuter. Donc on a encore une fois une ambivalence entre ce qui te permet de te détacher un peu de cette dysmorphophobie, mais qui en même temps est très extrêmement dangereux. Car comme tu ne t'en détaches finalement jamais complètement, ça peut vite dégénérer. Comme tu dis, ce sont des angoisses qui perdent ou gagnent en intensité selon les moments de ta vie, et en conséquence, se traduisent ou non en troubles visibles aux yeux des autres. Mais elles restent ces angoisses. Elles sommeillent pas vraiment car tu les sens. Peut-être qu'elles sont plus gérables car moins intenses, mais elles sont là, et ce en permanence, même quand tout paraît aller bien. Donc oui, comme tu dis, le problème c'est qu'on a souvent tendance à penser que quand une anorexique reprend du poids, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est terrible car c'est archi faux d'une part et très dangereux d'autre part. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une anorexique désire perdre du poids car elle se voit, se sent, se trouve trop grosse. Donc finalement, même si bien sûr la reprise du poids est propice à la régulation de l'humeur et à sortir de la phase de dépression qui l'accompagne, c'est un moment très dur à passer et peut-être encore plus difficile que la crise elle-même. Donc ça rassure tout le monde. Mais il faut bien comprendre que la prise de poids rassure tout le monde sauf la malade. Et comme c'est une maladie mentale, c'est précisément cette angoisse qui l'a fait chuter. Généralement, entre le moment où je commence à reprendre du poids et le moment où je me sens à peu près avoir une vie normale et à peu près sereine, il me faut environ 2 ans. Et si tant est qu'on peut dire avoir une vie normale, car il n'y a pas une seule fois et une seule journée depuis mes 14 ans où je ne me suis pas inquiétée de mon poids et mes repas. Donc ça reste là quand même. Mais de façon vivable, disons. Et par exemple, j'ai rechuté en juin dernier, et nous sommes fin mai. J'ai quasiment repris tout le poids que j'avais perdu, donc ça va faire un an tout pile. Et c'est l'horreur. Car tu sais toi-même que tu grossis, mais dysmorphophobie oblige, tu n'arrives pas réellement à savoir à quel point. Comme je te disais tout à l'heure, tout est flou, et tu te sens juste trop grosse. Et tout le monde te dit à longueur de temps, « Ah, ça fait plaisir de revoir que tu as repris tes joues. Ah, tu as repris du poids, c'est bien. Ah, tu es bien, tu es un peu plus en chair, ça fait plaisir à voir. » Mais c'est terrible d'entendre ça à longueur de temps. Et ça demande beaucoup de travail sur soi pour ne pas que ça te pousse à rechuter. Et finalement, c'est pour moi une phase qui est au moins aussi compliquée que la période de détresse par laquelle je suis passée suite à ma grosse perte de poids. Ensuite, exactement comme c'est très bien expliqué dans le podcast, bien sûr que l'humeur impacte la vision de toi-même et peut faire grandement varier la manière dont tu te perçois. Mais l'inverse est très vrai aussi. Ta perception de toi-même fait grandement varier ton humeur, et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Comme les crises d'anorexie restent une combinaison de facteurs, mal-être intense, moments très propices au doute, au manque de confiance en soi, surmenage, fatigue, c'est aussi le moment où tu as la plus mauvaise image de toi-même, et donc que ça se répercute sur tes plus grosses angoisses, le poids en l'occurrence. Et donc quand tu vas mal, tu as tendance à te trouver plus grosse, moins jolie, etc. Encore une fois, un peu comme tout le monde, sauf que dans ce cas-là, c'est très intensifié, dû aux troubles que tu as. Et enfin, on sait de manière médicale que les moments d'extrême maigreur sont très propices à accentuer le phénomène de dysmorphophobie, car ton cerveau n'est plus capable de fonctionner normalement, ou du moins tu perds pied avec la réalité, et ne reste que l'émotion et l'irrationnel. Comment est-ce que tu fais face à ces crises de dysmorphophobie ? Alors déjà, je panique. Je déprime souvent car c'est assez pesant. Mais je dirais qu'au quotidien, c'est un peu la débrouille. Comme je disais tout à l'heure, j'essaie d'avoir une vie saine, un cadre alimentaire très strict, qui m'aide à me dire « Objectivement, ça ne peut pas te rendre grosse. » Et aussi, ça me motive. J'adore cuisiner. J'ai fait de ma plus grosse angoisse ma première passion. Et ça, c'est vraiment génial, et un beau garde-fou, je trouve. Mais en même temps, c'est très très dangereux, car ça me maintient dans ce côté obsessionnel et ce désir de contrôle sur ce que je mange, dont je n'arrive pas à me défaire. Car oui, je pense bouffe tout le temps. Je pense contrôle tout le temps. Et je suis consciente qu'à la fois ça m'aide, mais qu'en même temps ça peut très très vite déraper. Alors je ne sais pas du tout si c'est la bonne méthode, mais c'est le système D sur lequel je me repose pour l'instant. Et oui, ça peut aller vite. Mais encore une fois, à mon sens, il faut une combinaison de facteurs pour qu'il y ait une réelle rechute. Et c'est ça que j'essaie d'identifier en psychothérapie, mais aussi de reconstruire une stabilité émotionnelle, et réparer les blessures du passé, et trouver des personnes ressources en effet. Et c'est là où je te disais que la dysmorphophobie est intrinsèque à l'anorexie, dans mon cas. Mais qu'en même temps, elle est bien sûr très liée et connectée à des problèmes bien plus profonds. Et c'est là, je crois, qu'il faut aller fouiller. Je remercie donc énormément cette personne pour ce témoignage très précieux. Moi-même, en tant qu'anorexique, même sans expérimenter cette vision déformée du corps, je partage bien sûr beaucoup de ces ressentis et c'est des choses qui sont importantes de faire entendre.
Bras le corps.
D'après la psychologue Sophie Cheval, la dysmorphie corporelle ne renvoie pas nécessairement à un complexe permanent et pathologique. Dans ses formes les plus courantes, il est la gueule des mauvais jours. Comme elle l'explique très bien dans ce podcast que je vous recommande, notre perception de la beauté est en effet ancrée dans nos émotions, pouvant ainsi évoluer selon les heures même de la journée. Reste que ces mal-êtres nous pourchassent et nous harcèlent jusque dans le confinement.
Finalement, si on y réfléchit, ce qui nous rapproche les uns et les autres, qu'on soit dysmorphophobe ou pas, qu'on le soit à certains moments ou de manière plus constante, c'est que finalement, notre apparence physique, c'est ce qu'on connaît le moins bien de nous-mêmes.
Sophie Cheval, invitée par Jennifer Pajami dans son podcast Miroir Miroir sur Binge Audio le 19 mars 2019.
C'est assez flippant quand on y pense. Hein. C'est-à-dire, notre apparence physique, c'est vraiment ce que les autres voient de nous en premier. C'est aussi pour ça qu'on y accorde une telle importance. Et finalement, c'est ce que l'on connaît le moins bien de nous. Donc finalement, à quoi peut-on se fier pour savoir à quoi on ressemble ? Eh ben, à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations. C'est-à-dire, les seules sources d'informations qu'on a en lien avec notre apparence physique, c'est des informations internes, c'est des événements psychologiques.
Au-delà de simples questions esthétiques, le confinement a pu aussi jouer de manière très particulière sur le rapport au corps de nombreuses personnes. C'est le cas de Léo, qui est trans non-binaire qui nous explique comment le confinement a eu un impact ambigu sur sa dysphorie de genre.
Le confinement a eu un effet concret sur mon rapport à mon corps, mais très paradoxal. D'un côté, il y a eu cet effet positif de me libérer d'une source de dysphorie. En fait, pendant un moment, j'ai été dysphorique de ma poitrine, mais je sentais bien que c'était le cas uniquement en présence des autres. C'est-à-dire que moi, seule, ma poitrine ne m'a que très rarement dérangée, au contraire même parfois. Mais par contre, le fait que les gens puissent percevoir que j'en avais une, c'était très douloureux pour moi. Du coup, jusqu'à présent, je portais un binder, souvent, trop souvent même pour mon corps, qui avait du mal à le supporter et qui en souffrait beaucoup. Concrètement, le binder, pour moi, c'était choisir entre ne pas le mettre et souffrir moralement, ou le mettre et souffrir physiquement. Du coup, je sentais bien que j'allais pas pouvoir continuer comme ça longtemps, qu'il fallait que je trouve une solution, et en fait, le confinement m'a offert cette solution. Comme les rues étaient presque désertes, que les gens se regardaient peu, qu'ils me regardaient peu, j'ai commencé à sortir sans binder, sans rien pour cacher ma poitrine sous mon t-shirt. La première fois, c'était assez curieux. J'étais pas vraiment à l'aise, mais en même temps, je sentais que ça me faisait vraiment du bien de laisser mon corps respirer, de sortir en t-shirt sans rien en dessous. Du coup, je l'ai refait, et au final, à chaque fois que je sortais, j'en mettais plus. Maintenant qu'est arrivé le déconfinement, j'en porte toujours plus des binders. Enfin, pas tout le temps du moins. Ça reste quelque chose qui me fait me sentir bien, dans lequel je me sens beau et confiant, mais je sais que j'en ai plus besoin et que mon corps m'en remercie. Je peux pas dire que ça a été facile, et honnêtement ça l'est toujours pas, mais par contre je sens que c'est une solution qui me convient. Il y a donc eu ce côté positif, mais paradoxalement, le confinement m'a aussi apporté une autre source de dysphorie. En fait, le fait d'être tout le temps dans mon studio, composé d'une seule pièce du coup, et dans laquelle il y a un miroir, a fait que je me retrouvais sans cesse face à moi-même et à mon regard. Et ce regard-là, ce regard que je portais sur moi-même, je pouvais jamais l'éviter. Et en fait, il y a une partie de mon corps à laquelle d'habitude je pouvais échapper, parce que mon quotidien est rempli, et parce que même si mon miroir me renvoyait cette image que j'aimais pas forcément, au final, quand je sortais de chez moi, j'y pensais plus. Là, cette partie de mon corps, je la voyais tout le temps, et j'y échappais jamais. Et je sens bien que ce mal-être s'est intensifié, et que maintenant, plus que quelque chose qui me plaît pas, c'est une réelle source de dysphorie. Et cet effet du confinement, malheureusement, n'a pas non plus l'air de vouloir s'effacer avec le déconfinement. Voilà, pour moi, le confinement, il a eu ses effets positifs, certes, mais il a aussi eu ses effets négatifs. Et à bien y réfléchir, j'ai l'impression qu'il m'a aidé à me libérer du regard des autres, mais qu'au contraire, il m'a mis face à mon propre regard que je pouvais jamais éviter.
Pour en revenir au rapport strictement esthétique au corps, encore une fois, l'ambivalence des discours sociaux nous pousse au conflit intérieur. D'un côté, pubs, séries, films, tout nous bombarde de ces images du corps désirable mais inatteignable, nous poussant à un constant sentiment d'échec. D'autre part, on nous explique que ce n'est pas l'apparence qui compte et qu'il faut s'accepter comme on est. Pas étonnant que ce double discours alimente ce même sentiment d'échec, surtout dans une société où il n'est jamais bien vu d'exprimer ses émotions négatives. Indésirable, notre mal-être est donc du même temps discrédité. Nous sommes invités à le taire, à le garder pour nous. Personne n'a trop envie de nous entendre nous apitoyer, surtout sur quelque chose d'aussi superficiel que l'apparence. Ce malaise a pu être particulièrement renforcé ces dernières années par la nouvelle tendance du glow, fausse beauté naturelle, proposée par de nombreux soins sublimants, mais que ne peuvent en réalité s'octroyer que les classes les plus privilégiées, se distinguant ainsi du reste de la masse qui continue pour sa part à recourir à des subterfuges et des ornements plus traditionnels tels que le maquillage. Pour ces autres, le sentiment d'être moche peut persister, doublé d'une sensation de ridicule, honteux et honteuse de nous sentir moches et d'y accorder tant d'importance. Les nouvelles normes d'esthétique et de bien-être de plus en plus incorporées, voire carrément ingérées, provoquent également de nouveaux troubles, de nouvelles obsessions. On peut citer l'orthorexie par exemple, qui se caractérise par une volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. et qui peut être vu comme une nouvelle forme de trouble du comportement alimentaire, TCA, bien qu'il ne soit pas encore reconnu officiellement comme tel par le corps médical. Ne s'y méprennent pas. Ce n'est pas le bien-être le problème, mais bien la manière dont ces industries en ont fait un mot d'ordre tyrannique. Valeur en soi indéniablement positive, le bien-être et par extension tout ce qui a trait au concept de bien-vivre ne sont pas des données fixes, objectives et exemptes de manipulation marketing, bien au contraire. On assiste en fait à une caractéristique tout à fait spécifique du capitalisme, qu'a très bien analysé le sociologue Luc Boltanski dans son ouvrage « Le nouvel esprit du capitalisme ». Ce principe consiste pour l'ensemble des firmes dominant le marché à se réapproprier les critiques qui leur sont adressées pour en faire de nouveaux produits marketing. J'ai déjà évoqué le greenwashing ou le pinkwashing dans d'autres podcasts. Cette réappropriation vaut également pour les slogans des mouvements féministes imprimés sur les t-shirts, les critiques de la tyrannie des hiérarchies et de la pression au travail qui sont aspirées et recrachées sous la forme de nouveaux programmes de management soi-disant bienveillants. Comme on l'a vu, elle s'est aussi appliquée au discours de dénonciation de la malbouffe, permettant de développer les marchés des régimes et des programmes de remise en forme. Il en va de la même logique ici, sur la question du bien-être. L'ensemble des critiques faites au caractère anxiogène du mode de vie capitaliste est capté par les principales industries motrices de ce système, qui s'adaptent pour nous vendre du bien-être en crème ou en plaquettes renouvelables à l'infini. Néanmoins, ces réappropriations ne sonnent pas pour autant le glas des critiques et des mouvements militants qui les ont initiés. À notre tour, nous nous réapproprions les concepts et les dénonciations, car nous savons au fond que notre bien-être ne peut pas dépendre de nos oppresseurs. Nous ne les avons pas attendus pour l'expérimenter, et bien d'autres pratiques saines peuvent nous aider à le retrouver. On pense par exemple à la méditation, méditation de pleine conscience notamment, ou le yoga dont les effets positifs sur la santé et le mieux-être ont été largement prouvés. Ces pratiques n'ont pas été inventées de toutes pièces par des industries du profit, bien que celles-ci tentent par tous les moyens de se les réapproprier. Avant de devenir la mantra de la Startup Nation pour se détendre et mieux repartir au travail, il s'agit de l'actualisation de pratiques issues de culture, de médecine et de spiritualité anciennes, venant notamment du continent asiatique. Elles sont à l'origine tournées vers l'apaisement intérieur, et l'une de leurs principales forces est sûrement de concevoir le corps dans son intégralité et son existence en soi. Elles ouvrent ainsi des alternatives dans la perception de notre corps que notre médecine occidentale a plutôt tendance à traiter comme un agencement de différentes parties mécaniques, tandis que les entreprises capitalistes en font des instruments de rentabilité. D'autres pratiques sportives peuvent également produire des effets de bien-être similaires. D'après Christine Détresse, la plupart auraient émergé dans les années 80 en Occident, en parallèle de l'évolution d'une partie de la médecine vers davantage de liens entre le somatique et le psychologique, s'ancrant dans l'idée d'une possibilité d'agir sur son intériorité psychique. Ces pratiques cassent avec les pratiques sportives jusque-là dominantes au sein de la classe moyenne. Vous savez, ce genre de sport qui privilégie surtout la compétition et le dépassement de soi dans l'idée de défouler un corps de plus en plus en manque de déploiement physique. Au contraire de la répétition mécanique de mouvements visant à se vider la tête abrutie par une journée derrière l'ordi, les nouvelles pratiques sportives, telles que le pilates ou certaines gymnastiques, mettent l'accent sur un retour à soi par l'écoute de nos sensations. Le sport n'est plus seulement marqueur social et recherche d'absentéisation, mais dévoile un autre potentiel, plus thérapeutique, centré davantage sur la compréhension des mécanismes de son corps. De nombreux courants de la danse moderne et contemporaine s'inscrivent dans la même dynamique, questionnant l'intériorité des danseurs, jouant sur les sens et les émotions préexistantes au mouvement.
La danse contemporaine, dans son versant idéologique et novateur, apparaît comme une véritable libération pour les jeunes apprentis danseurs passés par des institutions de formation académique calquées sur le modèle légitime de l'Opéra de Paris. La conversion de qualités techniques et physiques, acquises dans le cadre de la danse classique, est souvent présentée comme un travail de transformation et de réappropriation de son corps et de soi-même. L'introduction de techniques du corps, de méthodes de travail et d'enseignement différentes, et parfois opposées à la danse académique, permet ainsi à ces danseurs, passés par la danse classique, de découvrir et valoriser des éléments de leur physique ou de leur personnalité, qui était perçu auparavant comme stigmatisant. Ce retournement de stigmate, qui se révèle possible en danse contemporaine, restitue souvent une identité existentielle et professionnelle blessée par un échec dans la discipline classique. Pas assez grand, trop petit, trop grosse. Le primat donné à la singularité du danseur ou de la danseuse et à sa capacité créative rompt avec l'idéologie du classique. La danse contemporaine apparaît ainsi comme un espace de liberté et de transgression des anciennes normes et comme l'opportunité de la restitution d'une estime de soi parfois mise à mal. Pour les femmes, l'atténuation des exigences physiques, dont la suppression du travail sur pointe est l'expression la plus symbolique, autorise l'expression d'une féminité dégagée des contraintes du corps féminin académique. La suppression du miroir qui, dans le classique, était un instrument de contrainte consentie et facilitait le processus d'incorporation du modèle stéréotypé de l'image de la danseuse classique, permet aux femmes de vivre plus facilement leur corps dans sa singularité.
C'est la fin de ce deuxième épisode dédié à l'appréhension de nos corps confinés. Dans la troisième partie de cette série, je m'intéresserai plus directement au processus de quête de soi et notamment au concept de développement personnel. Merci aux contributeurices et merci de votre écoute.
Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre.
La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain.
Abra le corps.